Les couleurs primaires de Mélissa Véraud. Copyright Les Éditions Didier 2016. Première partie, rouge. Une vie en noir et blanc. Je m'appelle Camille. Depuis 10 ans, je suis employée chez un grand fabricant de peinture. Mon rôle est de trouver un nom pour chaque teinte que nous produisons. Chaque année, nous mettons sur le marché près de 2000 sortes de couleurs. Les clients apprécient cette grande variété. Moi, je la déteste. Parce que cela signifie que tous les ans, je dois trouver 2000 noms de couleurs originaux. Je n'aime pas mon travail. En fait, je n'aime pas ma vie en général. J'habite seule dans un grand appartement. Les gens disent souvent que c'est beau chez moi, que j'ai beaucoup de goût. La décoration est épurée. Les accessoires ont été choisis avec soin. Chaque chose est à sa place, rien ne dépasse. Personnellement, je trouve que ça manque de vie. J'aurais voulu avoir des enfants. Cependant, pour faire des bébés, il est plus pratique d'avoir un partenaire. Cela fait 5 ans que je suis célibataire. Mon appartement est situé dans le vieux Montréal, un quartier chic et branché de la ville. On y retrouve plusieurs bars, restaurants, studios de yoga, galeries d'art et boutiques pour touristes. Je n'ai rencontré l'homme de ma vie dans aucun de ces lieux. Tous les hommes que je croise me semblent fades, inintéressants. Ma mère croit que je suis en dépression. Je pense seulement que mes critères de sélection sont trop sévères. Heureusement, il y a mon chat, Cyril, pour me tenir compagnie. Tous les soirs, lorsque je rentre du travail, il m'attend. Il m'aime beaucoup. C'est normal, c'est moi qui le nourris. Je lui achète toujours les meilleures croquettes et des pâtés savoureux. Vers 19h, nous mangeons ensemble, en silence. Je ne mange pas son pâté pour chat, quand même. Ma vie n'est pas si horrible que ça. Je m'achète mes propres repas surgelés. Ensuite, nous regardons généralement la télévision jusqu'à ce que je m'endorme sur le divan. Il m'assiste pendant que je prends mon bain, puis nous nous couchons. Mon réveil sonne à 6h tous les matins. Je ne me lève jamais avant 6h45. Il me reste alors 30 minutes pour me préparer et prendre le petit déjeuner. À 7h19, je dois être à l'arrêt d'autobus. À 7h58, j'arrive au travail. Je dépose mon goûter dans le réfrigérateur de la salle des employés et je me rends à mon bureau. Puis, plus rien. J'attends que le temps passe. Depuis 3 mois, je n'ai plus d'inspiration. Mon cerveau est vide. Mon cœur aussi. Les idées me manquent. Je regarde mon écran d'ordinateur, l'air perdu. Je vérifie mon courrier électronique toutes les 5 minutes, comme si j'attendais une nouvelle importante. Je ne sais pas exactement ce que j'espère. Il y a peu de chances qu'on m'écrive pour m'annoncer que j'ai gagné $1 million. Les lettres d'amour envoyées par des inconnus sont plutôt rares, elles aussi. Ma vie est vraiment ennuyante. Le vide est l'essentiel. Aujourd'hui, au lieu de fixer le vide pendant 8 heures, j'ai décidé de commencer à écrire un journal. Si Monsieur Paradis, mon patron, apprenait que j'utilise l'ordinateur de la compagnie pour mes projets personnels, il me convoquerait sûrement dans son bureau. Peut-être même qu'il me mettrait à la porte. Ce serait une bonne nouvelle. Je doute que ça arrivera. Monsieur Paradis sait très bien qu'il ne trouverait personne pour me remplacer. Alors, jamais il n'oserait me renvoyer. J'écris ces lignes dans un document que j'ai nommé « Les couleurs primaires ». À force de fréquenter autant de couleurs aux noms étranges et poétiques, j'ai fini par oublier le nom des couleurs de base. Le nom des couleurs qui compte vraiment. J'aurais besoin d'un retour à l'essentiel. Le bonheur est dans le rouge. Ma voisine, Madame Fernandez, est d'origine espagnole. C'est une femme très colorée. Elle est souvent habillée de rouge et d'orangé. Elle porte d'immenses fleurs dans ses cheveux. Lorsqu'elle parle, on dirait qu'elle chante. Elle a 75 ans. On lui en donnerait 25 de moins. Elle dit que c'est le flamenco qui la garde jeune. Encore à son âge, elle donne des cours de danse tous les lundis et jeudis soirs. Je devrais peut-être m'inscrire. Hier, quand je suis rentrée, ça sentait le safran dans le couloir. Madame Fernandez cuisinait une paella en écoutant de la musique. Des airs de guitare légers et envoûtants accompagnaient les parfums de crevettes et de poivrons grillés. Chez moi, tout était silencieux et il y avait une forte odeur d'humidité. Cyril dormait. Il n'est pas venu m'accueillir en ronronnant. Le réfrigérateur était vide. Je suis ressortie pour acheter du lait et des céréales au supermarché. Une fois de plus, mon dîner ressemblerait plutôt à un petit déjeuner. Alors que je fermais la porte de l'appartement, Madame Fernandez s'est approchée de moi. Dans ses mains, elle tenait un plat de plastique duquel s'échappait un fumet appétissant. « Mademoiselle Camille » a-t-elle lancé avec son accent séduisant. « J'ai préparé suffisamment de paella pour nourrir l'île de Montréal au complet. Vous en voulez un peu ?» Son sourire était si lumineux. Je n'avais pas le choix d'accepter. J'ai fait oui avec la tête. « Avec un bon verre de vin rouge » ajouta-t-elle. « Un tempranillo si possible. Vous allez voir, ce sera délicieux. » Je n'avais pas de vin chez moi. J'en bois très peu. De toute façon, je n'ai personne avec qui le partager. J'ai déposé le plat encore chaud sur le comptoir de la cuisine et, suivant les conseils de ma voisine, je suis allée acheter une bouteille de tempranillo. Il commence à être temps que j'apprenne à me faire plaisir. Pourquoi attendre de ne plus être seule pour me décider à profiter de la vie? Aimer sans le savoir. En buvant mon verre de vin, assise sur le balcon, derrière mon appartement, je me suis demandé comment faire pour rendre ma vie moins ennuyante. Je devrais suivre l'exemple d'Amélie Poulain et poser de petits gestes pour agrémenter l'existence des gens qui m'entourent. Envoyer des fleurs ou des ballons à de vieilles connaissances, sans raison. Choisir des personnes au hasard dans le bottin téléphonique et les appeler pour leur souhaiter bonne journée. Écrire des lettres d'amour enflammées à des étrangers. Cette dernière idée m'a amenée à me poser une question. Est-ce qu'un homme a déjà été amoureux de moi sans me le dire? Ça peut sembler stupide comme questionnement, mais moi, ça me ferait du bien de savoir que quelqu'un, quelque part, m'a déjà aimé en secret. Moi-même, j'ai souvent été amoureuse de garçons sans le leur avouer. L'inverse doit donc être possible. Il existe probablement en un endroit sur cette planète une personne qui n'a jamais osé me révéler ses sentiments. Il faut que je trouve cet individu. Le cœur à la bonne place. Depuis hier, je pense à cette idée folle. Partir à la recherche de celui qui m'aime en secret. Peut-être qu'il n'existe pas, peut-être que je me fais des idées, mais si, au contraire, cet homme est bel et bien réel, je dois retrouver sa trace. Cela changera sans doute ma vie. Elle aura un sens, puisque quelqu'un lui aura déjà accordé de l'importance. Ma solitude deviendra moins lourde à porter. Où ai-je le plus de chances de trouver cet amoureux inconnu? Probablement dans mon village natal, là où j'ai grandi. Il y a sûrement un Kevin ou un Alexandre qui avait le béguin pour moi à l'époque de l'école primaire. Et pourquoi pas un Michel ou un Luc qui rêvait de m'embrasser quand nous étions adolescents? Je dois contacter ce Kevin, cet Alexandre, ce Michel ou ce Luc, leur dire que je suis désolée, m'excuser de ne pas avoir vu qu'ils me regardaient avec désir et passion. J'aurais dû être plus attentive. J'ai toujours eu la manie de tomber amoureuse des mauvais garçons. Mon cœur s'attache à ceux qui ne veulent rien savoir de moi. Je fonds pour des chanteurs de rock inaccessibles ou des hommes d'affaires déjà mariés. Difficile de fonder une famille avec un homme qui est toujours parti en tournée ou qui doit rejoindre sa femme et ses enfants à la fin de la soirée. Oui, c'est ça. Je n'ai pas regardé là où il fallait. L'homme de ma vie est certainement quelqu'un de discret et timide. Je l'imagine calme, qui n'élève jamais la voix, qui a de la difficulté à approcher les autres, mais qui pourtant a mille choses intéressantes à raconter. Moi qui ai toujours cherché des gars drôles, excentriques et bavards, je n'étais décidément pas sur la bonne piste. Samuel. Au travail, nous sommes deux à occuper le même poste. Mon collègue se nomme Samuel. C'est un grand brun aux yeux foncés et à la peau claire. Il aime cuisiner et aller au cinéma. C'est à peu près tout ce que je sais de lui. Il passe ses journées assis à 3 mètres de moi. Toutefois, nous échangeons peu de paroles autres que « bonjour » et « bonne soirée ». J'ignore s'il a une copine. Sûrement. Il est plutôt mignon, en plus de posséder une voix grave et réconfortante. Si je veux partir à la recherche de celui qui m'aime ou qui m'a aimé sans jamais avoir eu le courage de me l'avouer, je vais devoir prendre un congé de quelques jours. Pour cela, l'aide de Samuel sera nécessaire. S'il accepte de s'occuper de mes dossiers, M. Paradis me laissera peut-être m'absenter. Voilà 2 ans que je n'ai pas pris de vacances. Mon patron me doit bien une semaine de liberté. « Des vacances ?» demande Samuel. « Super ! Tu veux aller où ? Dans le sud ? Il paraît qu'on mange très bien et que les plages sont superbes au Mexique. » « Non, je vais plutôt aller dans le nord, à Baie-Comeau. Qu'est-ce que tu vas faire là ? Je suis originaire de là-bas. Tu vas rendre visite à tes parents ? Mes parents sont morts. Oh, désolé. Tu ne pouvais pas savoir. Ils sont morts, mais leur maison se trouve toujours à Baie-Comeau. Ma sœur n'en voulait pas, donc c'est moi qui en ai hérité. Je la loue depuis leur disparition. Tu vas là-bas pour t'occuper de la maison ? Non, non, pour retrouver quelqu'un. Un ami d'enfance ? Si on veut. De prétendus prétendants. Monsieur Paradis a finalement accepté que je parte une semaine. C'est étonnant. Il est du genre à penser qu'un bon employé devrait passer au moins 80 heures par semaine au bureau et ne pas avoir de vie en dehors de son travail. Il est peut-être malade. Les gens souffrants deviennent souvent plus sympathiques. Comme si, en étant gentils, ils avaient une chance de guérir plus rapidement. Pourtant, les gens bons meurent autant que les méchants, peut-être même plus souvent. Après tout, ne dit-on pas que les meilleurs partent en premier ? Enfin, j'accepte la générosité inhabituelle de M. Paradis avec plaisir. Et j'espère qu'il ne profitera pas de mon absence pour mourir. Je n'ai aucune envie d'assister à des funérailles à mon retour. Mais je divague. Je devrais me concentrer sur l'objet de mon enquête, l'amoureux silencieux. Puisque la maison de mes parents est louée, j'ai réservé une chambre au motel La Caravelle. Cet endroit m'a toujours paru peu accueillant, avec sa décoration qui n'a pas changé depuis les années 70. Aujourd'hui, cela me semble le décor idéal pour une enquêtrice comme moi, investie d'une mission incroyable. Dans ma valise, je prends soin de déposer mon album de finissant ainsi que le vieux répertoire téléphonique qui contient les numéros de tous mes amis d'enfance et d'adolescence. Ces deux outils m'aideront certainement à mettre la main sur quelques suspects, ou prospects plutôt, de prétendus prétendants. Madame Fernandez prendra soin de Cyril durant mon absence. Ce dernier me regarde avec un air détaché. Je crois qu'il fait semblant d'être fâché. Je ne l'ai jamais abandonné aussi longtemps. Il s'en remettra. Et je m'en remettrai. Du moins, je suppose.